Il s'agissait de partir sur la notion de discrimination.
Oui.
Donc, je vais partir de cette notion de discrimination parce qu'effectivement, elle est assez souvent... elle est beaucoup présente maintenant, elle est beaucoup plus présente en tout cas dans la communication médiatique qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et du coup, beaucoup de questions arrivent sur l'école et l'école là-dedans et comment l'école produit des discriminations, qu'est-ce qu'elle fait des discriminations, etc. Donc effectivement, il y a des éléments d'information qu'il faut apporter et puis des questions qu'il faut poser parce que... finalement, sur ces questions-là, on sait peu de choses. On n'a pas la chance d'avoir ce que Yves Retard vient d'expliquer à propos de la pédagogie freinée en milieu populaire. Enfin, la pédagogie freinée, comme il a dit, cet investissement de la pédagogie moderne de Célestin Freinet en milieu populaire, avec cette chance d'avoir des études longitudinales suivies, une équipe de 11 chercheurs sur une école. On n'a pas ça en matière de discrimination et de questionnement des processus ethniques dans les écoles. C'était encore largement une question taboue, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour ma part, j'ai participé cette année dans le jury à deux thèses qui travaillaient de face sur cette problématique-là. Ben, c'était les deux premières à ma connaissance. Hein. C'est-à-dire qu'on en a parlé jusqu'à présent de façon hypothétique, beaucoup plus qu'avec des données empiriques solides à apporter. Quand on dit discrimination, on ne dit pas quelque chose forcément très clair. Il faut bien savoir qu'il y a du flou dans le mot. En matière de sciences sociales, on a un sens assez large de discrimination. Discriminer, c'est faire des distinctions. Discriminer en matière de social, c'est faire des distinctions collectives parmi les populations, créer des groupes. Et c'est associé, c'est un élément de la définition qu'il faut que vous reteniez bien, c'est associé à la notion de préférence ou de jugement de valeur, positif, négatif. On fait des distinctions, ça c'est cognitif, on associe à ces distinctions des inégalités de valeur. Des jugements de valeur, les uns qui contribuent à exalter certaines catégories de population, les autres qui contribuent au contraire à dénigrer, à dévaloriser, à mépriser. Mépriser, je dis un mot là, en suggérant qu'il y a non seulement du jugement de valeur avec ce que ça peut avoir de réfléchi, mais aussi de l'émotion, du tripal, de la subjectivité profonde. Il y a de ça dans les questions de discrimination, et en particulier discrimination ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire ethnique? Ça veut dire en rapport avec une origine collective supposée. Donc en rapport avec une appartenance à un territoire supposément d'origine, à une culture supposément d'origine, voire à une race. Hein, tout ça, on est dans ce genre de phénomène-là. Il n'y a pas forcément d'idéologie associée aux discriminations. C'est pas forcément rationalisé dans une idéologie raciste, mais ça peut l'être, mais ça l'est pas forcément. Discrimination, c'est une pratique qui fait des différences, qui fait des distinctions entre des groupes sociaux et qui valorise et dévalorise corrélativement donc ces groupes les uns par rapport aux autres. Maintenant, au sens juridique du terme. La discrimination ou certaines formes de discrimination sont des délits. Mais certaines formes seulement. Et ce que je vais exprimer là, c'est qu'il faut bien garder en tête que le sens juridique qui permet de parler de délit de discrimination est une restriction de l'activité de catégorisation sociale qui fait des distinctions, qui juge, qui méprise, qui ressent comme un malaise la présence d'autrui, etc. C'est une restriction. On parle de discrimination au sens juridique du terme, ce qui permet d'alléguer un droit et une atteinte à un droit. Lorsqu'il y a un refus de service ou un refus de droit ou une dégradation du service auquel on a droit sur la base d'un critère d'origine. Donc la discrimination est ethnique lorsque le critère d'origine est mobilisé, ou elle peut être sexiste, elle peut être de toutes sortes liée à la religion. Il y a toute une énumération des critères qui permettent de parler de discrimination au sens juridique du terme et donc d'éventuellement d'introduire une plainte. bien garder en tête donc les deux sens, le sens plus restreint de droit bafoué, d'enfreinte du droit et de délit de discrimination d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'on peut appeler un contexte discriminatoire, une situation sociale, sociétale discriminatoire, quelque chose de bien plus vaste qui englobe le politique, on va le voir tout de suite, et qui questionne l'école. Du point de vue juridique, on a progressé dans la pénalisation des discriminations dans le domaine des loisirs, dans le domaine du travail. Il y a eu une loi passée en 2001. Et surtout, le principal progrès pour l'accès aux droits et la lutte des discriminations contre les discriminations au sens juridique, c'est la mise en place de la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, mise en place par une loi de décembre 2004 et installée au printemps 2005, et qui maintenant travaille. Elle travaille avec un bataillon de juristes de haut niveau qui instruisent des dossiers. Cette HALDE, elle peut être saisie par les individus. C'est quand même assez original dans notre dispositif institutionnel. D'ordinaire, pour se plaindre, on est obligé de passer par des relais qui introduisent votre plainte. Non, là, vous pouvez vous plaindre directement. Les gens peuvent se plaindre. Il faut évidemment des éléments dans le dossier. La question de la preuve, donc il faut éventuellement être conseillé par une association, par un avocat, etc. La HALDE, en tout cas, travaille, et pour des enseignants, ce qu'elle fait d'intéressant, quand on n'a pas directement affaire à elle, c'est qu'elle publie sur le net ses rapports annuels. Elle fait tous les ans un rapport annuel, aux environs du printemps, si je me souviens bien, fin du printemps, et c'est mis dans le net tout de suite. C'est-à-dire que, et dans ce rapport annuel, on connaît tout du travail au quotidien de la HALDE, des décisions qu'elle a rendues, de ce qu'elle a fait dans des dossiers. Et donc, ça donne un éclairage assez intéressant sur, justement, l'accès aux droits dans ce domaine de la discrimination dans notre pays. Elle a toutes sortes de pratiques de conciliation. Elle soutient l'introduction au contentieux. Elle-même ne juge pas, hein. Elle-même ne punit pas, ne sanctionne pas. Mais lorsqu'elle soutient un dossier, le dossier a des chances d'avancer quand même, hein. Elle a également des actions de prévention. Mais, alors maintenant, deuxième plan, en quoi les phénomènes discriminatoires dans notre pays, et éventuellement dans notre école, sont plus larges que cela? C'est que d'une part, ils ont un côté subjectif, on peut dire qu'il y a une expérience de la discrimination qui est bien plus large que ce que peut traiter la HALDE. Pour introduire des dossiers, pour construire des dossiers, il faut des preuves. Des preuves, il faut des déclarations explicites, par exemple, à l'oral ou à l'écrit, il faut des témoins. Beaucoup de ce qui fait le vécu discriminatoire des élèves, par exemple, et des parents d'élèves, de cette expérience discriminatoire diffuse, hein, laissez traîner vos oreilles, beaucoup de cette expérience discriminatoire diffuse n'est pas prise en compte par ce dispositif de sanctions, c'est clair. Par ailleurs, tout l'aspect contexte, création d'un contexte politique et social discriminatoire, là non plus on n'est pas dans le délit. Quand nos chers hommes politiques font des déclarations où ils imputent les difficultés sociales que connaît la France à la violence de certains jeunes, à la déloyauté, souvenez-vous de ce qui s'est passé récemment, hein, de certains jeunes, problèmes, notre tissu social se déchire, notre solidarité de la communauté française se déchire, nous avons parmi nous des jeunes qui sifflent la Marseillaise et tout ça. Déloyauté, violence, chômage excessif, toute une série de difficultés imputées à des catégories de population qui sont nommées ou simplement suggérées, mais qui se reconnaissent et que tout le monde reconnaît. Ça, c'est la création d'un contexte sociétal, incluant le politique, avec une très forte responsabilité aux politiques, discriminatoire. Et ça n'est pas un délit, évidemment. Ce contexte politique discriminatoire, ce contexte sociétal discriminatoire, il surplombe l'école. Il noie l'école. L'école est dedans. l'école est dedans, et on dit assez souvent que l'école souffre de son environnement et qu'elle lutte pour créer un espace propre à l'apprentissage, en créant une communauté éducative. Ben oui, elle lutte, mais pas forcément avec succès. Hein. Un contexte comme ça, c'est lourd et ça pénètre par beaucoup de canaux. Chacun sait bien d'expérience que la catégorisation ethnique, les catégories ethniques, c'est-à-dire les façons de classer les gens en des groupes qui ont des valeurs sociales et morales aussi, différentes, les uns en bas, les autres en haut, cette façon-là de classer, elle pénètre notre espace scolaire par les élèves, qui le trimballe. Tout le monde a vu, je pense, dans la salle, le film Entre les murs. Bien que les élèves sont les relais de ces catégories, même s'ils n'en font pas forcément un usage de jugement social analogue à celui des adultes majoritaires, elle pénètre par les élèves, elle pénètre par les enseignants et par tous les personnels, elle pénètre de par mille canaux. On ne sait pas trop quoi en faire. Faut-il parler de discrimination ? Alors, c'est ce que je dis dans mon article auquel je me permets de renvoyer parce que je vais juste y faire mention rapidement, là, dans le dossier sur égalité des chances, des cahiers. C'est assez paradoxal, la situation, du point de vue de... Y a-t-il alors, à ce moment-là, des discriminations au sens propre du terme dans l'école ? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, on sait peu de choses, somme toute, sur ces questions-là. Les résultats tels que nous les livre l'ADEP à partir du panel d'élèves. Elle a un panel d'élèves, vous savez bien, qu'elle suit pendant toute leur scolarité secondaire. Et sur ces élèves-là, elle a de très bonnes données sur les élèves eux-mêmes et sur la famille des élèves. Elle est donc en état de connaître les résultats des jeunes qui sont des Français, qui ont la nationalité française, mais dont les parents ou un des parents a immigré. Donc des enfants d'immigrés en tant que tels. Lorsqu'elle analyse les résultats du panel national en isolant les résultats des élèves enfants d'immigrés, eh bien, l'ADEP ne fait pas apparaître de différences négatives qui pénaliseraient les scolarités des enfants d'immigrés, même ceux qui sont, dont on croit qu'ils sont le plus victime de discrimination, le plus victime de racisme, le plus mal vu. À savoir les enfants originaires du Maghreb et ceux accessoirement d'Afrique noire. En tirant des données publiées par Jean-Paul Calme et Yael Brinbaum a beaucoup travaillé sur ces données aussi pour sa thèse, on obtient les mêmes résultats. Contrairement à ce que les jeunes eux-mêmes et les familles croient et disent, et ce que peut-être nous aussi nous pensons, ces enfants ne sont pas orientés plus souvent que leurs pères en lycée professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que leur père ? Ça veut dire que les enfants ou les élèves qui partagent toutes les caractéristiques sociales que ceux qu'on étudie, sauf l'origine. Hein ? Donc attention, c'est toutes choses égales par ailleurs. On ne va pas regarder les choses dans l'absolu, mais relativement à une position sociale. Ils ont une position sociale prolétaire, comme on aurait dit dans le temps. Par rapport à cette condition sociale que tous partagent, l'origine ne fait pas de différence négative. Le lycée professionnel n'est pas plus souvent la voie d'orientation des enfants d'origine immigrée, selon donc ces données de la DEP, qui sont des données nationales. Ils vont plus souvent en lycée général que leur père, bon, avec des chiffres très fortement significatifs. Et pour ceux qui sont d'origine maghrébine et ceux qui sont d'origine originaire de l'Afrique noire, ils vont aussi plus souvent en lycée, dans les filières technologiques, ce qui est une orientation moins favorable du point de vue de la poursuite des études et de la formation ultérieure. Ils sont également moins souvent sortants sans diplôme, ce qui est quand même assez surprenant par rapport aux évidences qu'on a, et moins souvent apprentis, ça c'était connu, ils sont victimes à ce moment-là de discrimination au sens propre du terme. Pour être apprenti, il faut un contrat avec un maître d'apprentissage. Ils n'obtiennent pas de contrat avec des maîtres d'apprentissage ou significativement moins. Et là, les chiffres sont également très, très significatifs. Hein. Mais cette discrimination-là, elle n'est pas à proprement parler celle de l'école. Elle est celle du marché du travail. Et là, on commence à les connaître très bien, les discriminations sur le marché du travail. Elles sont très importantes. Maintenant, ce qui caractérise ces élèves, et toujours du point de vue des chiffres de l'ADEP, c'est l'expérience scolaire. leur expérience scolaire est bien plus négative, significativement plus négative. Qu'est-ce que ça veut dire significativement? Ça veut dire que tout le monde n'a pas un discours négatif sur l'établissement fréquenté, sur le genre d'aide qu'on obtient des enseignants, etc. C'est pas le cas de tout le monde, mais quand on compare et quand on fait des moyennes, on s'aperçoit que les chiffres sont marqués en négatif cette fois-ci. Les enfants d'immigrés ont une expérience scolaire plus dégradée, jugent leur établissement moins favorablement que leurs pères qui ne sont pas d'origine immigrée. Ils jugent que les élèves sont moins bien aidés par les professeurs, etc. Une des surprises du tableau, là, page 22 dans notre dossier, c'est que les enfants d'immigrés originaires du sud-est asiatique, qui par ailleurs est une immigration qui pose aucun problème public, qui est réputée invisible, ont un jugement fort négatif sur leur scolarité. C'est pas du tout étudié, donc on n'est pas capable d'associer ça, de retrouver les chaînes causales qui font que ces élèves ont un jugement négatif sur leur scolarité. Sentiment d'injustice, sentiment d'être méprisé, sentiment d'être pas respecté. À quoi l'attribuer ? À des facteurs sur lesquels nous ne pouvons rien. Et ce, pour une bonne part, des facteurs structurels. La peur de l'orientation au lycée professionnel et le sentiment d'une orientation injuste sont très développés. Et pour dans une des thèses dont je parlais tout à l'heure, c'est comparer la France et l'Australie. Et en Australie, apparemment, les élèves parviennent à la fin de leur scolarité secondaire, leur scolarité obligatoire au niveau du bac, dans un état d'euphorie, tous. Ils ont confiance en eux, confiance en leur maître, ils aiment leur établissement, ils ont envie de faire des choses, ils ont des projets. L'auteur de la thèse, qui s'appelle Joel Windle, disait, bon, évidemment, ils n'auront pas tous des places dans les filières universitaires qu'ils convoitent, et puis le marché du travail va opérer sa distillation, c'est clair. Mais jusqu'à 18 ans, ces élèves sont des élèves heureux, confiants en eux, sentiment d'être respectés, etc. C'est tout le contraire qu'on trouve en France. Et ça fait que Joël Windle disait qu'il y a une vraie crise institutionnelle en France. En France, on trouve des élèves qui sont extrêmement acides, amers, acerbes, qui ont le sentiment d'être mal compris, mal aimés, mal respectés. Ils travaillent en particulier sur les jeunes d'origine turque. Hein. Mais une autre thèse parlait d'enfants d'origine maghrébine et gitane. Ils ont des propos extrêmement, virulents, quoi. Virulents sur l'institution, sur certains professeurs, etc. Ce facteur structurel lié à l'organisation des études chez nous et au fait de cette fameuse sélection par l'échec. Cette sélection par l'échec, elle est suspendue sur la tête des élèves très tôt. Hein. On peut dire dès la sixième, en tout cas dès la cinquième, on commence à en parler, à dire si tu fais pas ça, tu vas voir, etc. Il y a quelque chose, une angoisse, un stress qui est imposé aux élèves et aux familles que tout le monde ressent. Par quel canot ça passe, on n'en sait rien, par des discours, par des propos négligents, par on ne sait quoi, par mille choses, en tout cas... Tous nos élèves en France ont ça en perspective. Mais il y a également un facteur interactionnel sur lequel on peut certainement avoir plus de prise, et c'est là-dessus que je vais finir. Il y a quelque chose qui se passe dans la gestion des interactions dans le collectif des classes, dans le collectif des établissements. Alors, Jean-Michel me disait est-ce qu'on pourrait trouver des pistes positives à ce sujet. Il va de soi que... le contexte discriminatoire qui enveloppe l'école, il est là. Et une des pistes positives, ça consisterait, je crois, une principale piste positive, à permettre aux élèves de l'analyser, à permettre aux maîtres aussi de l'analyser. Je crois qu'il y a chez nous, et ça, encore ça se voit très bien dans le film « Entre les murs », un silence qui est lourd de conséquences cognitives et plus largement formatives. Je prends parfois ce mot des psychanalystes qui disent les enfants savent tout, mais ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas de mots pour mettre sur ce qu'ils savent. Ben, c'est un peu la même chose en matière de processus ethnique dans notre école. Tout le monde sait tout, ce qui se passe, les souffrances, les jugements négatifs. Quand on interroge les Français sur est-ce qu'il y a du racisme, ben, tout le monde dit oui. Qui est le plus racisé? Tout le monde dit la même chose. C'est connu de tout le monde. Tout le monde sait. Et personne ne comprend parce qu'on ne sait pas même pas nommer. On ne sait même pas mettre des mots sur ce qu'on, sur ça. Les profs ne savent pas ce qu'ils n'ont pas été formés. Les adultes français ordinaires ne savent pas. Ça leur paraît tout à fait même indécent de parler de ces choses-là. Et les élèves, évidemment, ils savent beaucoup de choses, mais eux non plus ne comprennent pas. Et ils sont en appétit d'apprendre, en appétit de comprendre. Il y a dans la pédagogie Freinet, j'étais hier à l'atelier avec certains d'entre vous, je pense, sur justement la présentation par les maîtres de cette école de cette expérience. Ils disaient, par le fait de laisser parler les élèves, et différents dispositifs que la pédagogie Freinet utilise, organiser une communauté culturelle de proximité. Communauté culturelle de proximité venant de la parole des élèves et de l'écho qu'elles trouvent dans le savoir-faire du maître. Ben, c'est juste l'inverse de ce qu'on voit entre les murs. Dans Entre les murs, vous avez sans arrêt la parole du maître qui suscite des réactions du rentre-dedans de la part des élèves, de la défense de la part des élèves. Les élèves, on ne les entend jamais. Le fameux Soleiman, c'est fascinant. Le silence de Soleiman dans le film. Il va être exclu. On ne sait rien de la logique de ce gamin. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il trouble la classe? Pourquoi il fait rien? Pourquoi sa mère dit qu'il est un bon garçon? On ne sait rien de lui. Le silence des élèves dans la pédagogie ordinaire, c'est certainement une piste là qu'il faut explorer. La voix, retrouver la voix des élèves. Retrouver la voix des élèves. Alors, une autre piste, est toute petite, mais elle est intéressante, c'est, on va l'étudier, on va le présenter bientôt dans les cahiers, c'est le nouvel outil qui est produit par la Cité nationale d'histoire de l'immigration, un DVD avec des fascicules, portant sur, justement, parler de l'histoire de l'immigration. Ça fait suite à un rapport de Benoît Falaise et de ses collègues, où ils ont fait l'état des lieux. Et l'état des lieux, c'est que les profs ne savent pas comment s'en sortir, parce que ce n'est pas vraiment au programme, et ils se sentent obligés quand même d'en parler, mais ils en parlent mal, etc. La Cité, là, jusqu'à nouvel ordre, fait un travail très important en donnant un outil aux enseignants qui vont pouvoir enfin combler une certaine attente des élèves lorsque ça se présente, hein, dans les classes où c'est le cas, sur ces questions-là. Une chose dont je vous inciterai à vous méfier, c'est de l'interculturel, du mot interculturel, et de ce qu'on met derrière, hein, le dialogue des cultures. Les cultures, ça ne dialogue pas. Les cultures, ça se fabrique par l'interaction, et ce qui dialogue, c'est les gens. C'est les gens. La rencontre, c'est celle des gens. La rencontre, c'est inter-individuel, interpersonnel, dans des cadres organisés pour la rencontre et pour qu'on en tire quelque chose. Donc, penser dialogue entre les gens, penser échange, témoignage, parole, comme je le disais tout de suite, mais méfiez-vous de la notion de culture. Actuellement, la notion de culture est une des principales modalités de la racisation de l'islam, par exemple, ou des gens d'autres civilisations. Parler culture, c'est dire, ah ben, ils sont bien différents de nous, mais nous, on ne regarde pas ce qu'on fait. Du coup, on ne se dit pas qu'il y a un problème de discrimination. Le problème de la discrimination, c'est qu'il y en a qui discriminent. Mais quand on parle interculturel, on met hors jeu cette question-là. Il y en a qui discriminent, pourquoi ils discriminent? Et qu'est-ce que ça fait comme souffrance chez les discriminés? On oublie ça et on fait comme si on était parfois, enfin, une des connotations possibles, pas toujours, hein, une des connotations possibles, c'est ça, c'est d'être dans une espèce d'espace irénique où on va se respecter les uns les autres. Non, dans un contexte discriminatoire, le respect, il ne peut être que construit, il n'est jamais acquis, et il ne peut être que construit de façon difficile et jamais acquise définitivement, critique, conflictuelle, enfin bon, il y a du conflit là-dessous, il y a du mal-être et du malentendu, et ça on l'oublie trop quand on parle interculturel. Donc, méfions-nous du mot, rien que le mot est glissant, même si c'est continue à être un idéal de se parler, de se rencontrer et de se respecter, évidemment. Mais voilà. Alors, merci. Moi aussi, je termine quand même en dénonçant le mutisme ministériel. Le mutisme ministériel. Par exemple, un des effets majeurs, hein, de la discrimination au sens structurel du terme, mais structurel, interactionnel. Là, on y peut quelque chose. C'est l'organisation des classes de niveau à coloration ethnique dans les collèges et certains lycées, ou les classes de filières par option dans des lycées professionnels. Là, le ministère se tait. Il a été question à un moment. Je sais que l'inspecteur général, tout le monde, a été porteur d'une demande à ce sujet, hein, que le ministère donne des consignes. Il n'en a pas donné. Le silence ministériel est total. Et un jeune qui vient de faire sa thèse et qui est maintenant maître de conférence, qui s'appelle Denis Laforgue, a montré dans sa thèse comment le fonctionnement de l'administration consistait à déléguer à la base, au terrain, la responsabilité de gérer tout ça, tout en les accusant en fait aussi facilement de n'être pas à la hauteur de leurs tâches. Denis Laforgue, il synthétise ça en disant tous capables, hein, c'est le GFEN, tous coupables. Vous êtes tous capables, allez-y, ramez, mais tous coupables, vous ne faites pas bien. Et on ne vous aide pas à faire.